Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur. Ça marchait jusqu'à présent. Oui. Donc effectivement, je me présente. Je suis par rapport au précédent interlocuteur qui est passé la DGME. Donc je suis Hervé Lebars. Je m'occupe de projets. Vous avez une vision qui était un petit peu la vision d'avenir que vous a dressé tout à l'heure Nicolas Conceau. Je vais essayer de revenir dessus et vous expliquer comment tout ça est mis en œuvre au sein de la Direction générale de la modernisation de l'État et au-delà. Donc si on résume par rapport à ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Globalement, vous voyez, même dans la structuration même de la DGME, vous voyez qu'on est, on est structuré pour prendre les besoins, pour orienter les besoins, pour définir ce qu'on va faire en fonction d'une orientation usagée. C'est-à-dire que les besoins, on les prend à la source des usagers. Et tout notre souci, effectivement, c'est d'arriver à répondre aux besoins des usagers. C'est-à-dire, alors pour illustrer mon propos, par différence avec ce qui se faisait auparavant, chaque administration pousser son offre de service et se débrouiller pour mettre en ligne son offre de service et faire en sorte que chacun puisse s'adresser administration par administration. Ce qui se traduisait par une espèce de cloisonnement entre les comptes qu'on pouvait avoir auprès des différentes administrations. On essaye de décloisonner, de balayer tout ça. Ce qui est important aussi du point de vue de l'usager, je reste sur le besoin, c'est lui offrir une espèce de, enfin pas une espèce, une qualité de service de bout en bout. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'on arrive à accueillir, à gérer les usagers, à faire en sorte que lorsqu'ils s'adressent à l'administration avec un grand A, quel que soit le canal d'accueil auquel ils se sont adressés, et finalement, quelle que soit l'administration à laquelle ils se sont adressés, ils aient un retour effectif, et pas simplement un retour sur le fait qu'ils ont déposé une demande, c'est-à-dire qu'on rentrait dans une nouvelle ère qui va être celle du suivi des demandes qui sont effectuées, et avoir une logique, avoir une visualisation de la logique de traitement de ces demandes, peu importe l'administration, encore une fois, à laquelle on s'est adressé. Et vous voyez, quand je dis démarche, qui est un petit peu une démarche, finalement, de CRM, de gestion de la relation client adaptée à l'administration, donc gestion de la relation citoyen, et un CRM opérationnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire de l'analyse derrière ou tout un tas de choses, mais au moins être capable de rendre compte à l'usager des traitements qui sont apportés à ses demandes. Comme il a été dit tout à l'heure, ce qui est extrêmement important, et ça va le devenir de plus en plus, c'est la logique ATAWAD dans laquelle on s'inscrit, alors je répète, anytime, anywhere, any device, avec cette logique d'ubiquité. Finalement, les usagers d'aujourd'hui, et on doit accompagner ces comportements-là, sont capables de faire n'importe quoi avec leur PC, mais également avec leur tablette, avec leur mobile, avec tout un tas de choses. Et ça, ça va devenir leur seconde nature. J'en parle pas plus parce que je pense que c'est un thème qui va être abordé dans la discussion qui va avoir lieu tout à l'heure, la table ronde qui va avoir lieu tout à l'heure. Mais donc, bien évidemment, il va falloir qu'on accompagne cette logique qui veut que les usagers et leur mobile, finalement, ne fasse qu'un. Donc, voilà. Si je résume tous les besoins, on les voit un petit peu là. Ce monde en constante évolution, le fait que les autorités... Ça parle beaucoup plus fort d'un seul coup. Le fait que on ait une vision de l'administration unique, le fait qu'effectivement, il y a une adaptation de l'administration qui doit se faire à cette évolution perpétuelle. Les contraintes, je les rappelle. Les SI, aujourd'hui, qui sont cloisonnées, avec, on peut dire, un développement anarchique de l'offre qui est un petit peu finalement à l'image de ce qui se passe sur le web. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans le développement d'une offre administrative qui est très à l'image de ce qui se passe sur le web, totalement anarchique. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut en fonction de sa propre logique. Il y a une absence de gouvernance et ça appelle effectivement là plus l'idée d'avoir une réglementation, quelque chose d'organisationnel qui structure un petit peu la démarche globale de production de l'administration, enfin qui régit le numérique. Bien évidemment, dans les contraintes qu'on se fixe, et là c'est des bonnes contraintes, on va dire, on a tout ce qui est lié au droit, à la liberté individuelle, et tout les passages par la CNIL qui sont nécessaires par rapport aux données personnelles. Il y a tout le cadre réglementaire effectivement qui va aller avec. Il y a bien évidemment aujourd'hui, on ne peut pas laisser échapper ça dans les contraintes, il y a la logique économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. Tout ce qui est, on dit que sur le numérique, on est sur de l'investissement, mais en réalité, avant d'être un investissement pour les politiques, c'est une dépense. Donc tout ce qu'on engage, c'est d'abord vu comme une dépense et il faut arriver à montrer que ce qu'on va faire va permettre d'économiser, voire de gagner. Or, vous n'avez pas échappé qu'il est hors de question de faire payer les usagers finaux. C'est-à-dire qu'en gros, il n'est pas question pour l'administration de proposer des services en ligne qui seront payants. Je fais une parenthèse, les seuls services dont vous aurez remarqué qui marchaient assez immédiatement, c'est ceux qui sont faits pour collecter de l'argent. Services des impôts, les télépaiements, on en a parlé tout à l'heure, ça c'est des trucs, ça marche relativement vite, c'est assez bien fait. Mais d'une façon générale, lorsqu'on rend un service public, et notamment lorsqu'on développe des services en ligne, l'idée n'est pas de faire payer chacun des usagers qui va l'utiliser. Donc voilà, ça c'est un peu les contraintes qui se posent à nous. Alors maintenant, comment on répond à ça? Il faut qu'on ait dans le développement, et pour répondre aux enjeux là, qui ont été exposés et qui ont été développés à travers les différentes présentations, il faut qu'on ait une logique, un SI agile. Un SI agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on conçoive que entre le front office, c'est-à-dire ce qui est proposé aux usagers, et ce, quel que soit le canal d'interaction, et les back office, il y a un rythme projet, un rythme de mise en œuvre qui est très différent. D'une certaine manière, on doit construire la façade, tout ce qui est mis en front office, encore une fois, quel que soit le canal, mais en particulier en passant par les médias numériques, et puis on doit mettre en ligne les back office. Et donc il faut tirer ces deux choses-là. L'idée étant que, alors suivant les pays, la démarche a pu être différente. Par exemple, les Belges ont développé toute une infrastructure qui est très très bien faite, mais dont il s'avérait que pendant tout un temps, il n'y avait pas de service aux usagers qui étaient offerts dessus. Et d'un seul coup, ils se sont mis à pouvoir développer des services parce que l'infrastructure était bien faite. Si je prends ça à l'image d'une maison qu'on construirait, la différence c'est, dans un cas, on construit les choses logiquement, c'est-à-dire qu'on fait la semelle de la maison en béton et puis on construit des parpaings par-dessus et on monte les murs. Dans un autre cas, et c'est un peu la démarche qu'on a adoptée en France, on met d'abord en place la façade, on étaye derrière, on met des bouts de bois ou n'importe quoi, et puis au fur et à mesure, on va construire, j'irai, toute la semelle, tout ce qui est l'infrastructure, tout ce qui est tuyaux, enfin réseau de canalisation, etc. etc. Donc vous voyez, pour illustrer un peu le propos, c'est dans cette démarche-là qu'on s'est inscrit. Donc nous, on a commencé à construire la façade à travers le développement de services en ligne, à travers le fait d'offrir aux usagers des services. Alors, j'en cite un pour l'exemple parce que c'est un peu emblématique. C'est le service de changement d'adresse ou de changement de coordonnées qui a été évoqué tout à l'heure. Ce service, effectivement, il est très utilisé. Pour autant, derrière, la réalité, parce que vous voyez bien le principe, c'est que vous vous connectez à un endroit, vous allez dire « je change d'adresse ». Vous allez, alors malheureusement aujourd'hui, donner tout un tas d'informations parce qu'en fonction des organismes auxquels vous adressez, c'est bien souvent pas les mêmes informations que vous sont demandées. Et là, ça renvoie à autre chose qui est l'identité numérique, mais encore une fois, je pense que ça sera abordé dans le débat suivant. Mais bref, une fois que vous avez fait ça, normalement, l'information doit être acheminée vers les différents partenaires, administration ou partenaires privés, et faire en sorte que le changement d'adresse soit effectif. Donc, ça c'est un petit peu la promesse. Mais pour faire ça, vous voyez bien qu'il y a deux niveaux. Il y a je construis l'accueil, la façade, je demande des informations à l'usager. Ensuite, je les envoie aux administrations traitantes ou aux partenaires traitants. Et eux peuvent réaliser le traitement de la démarche de différentes manières. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucun engagement, je dirais, commun ou respecté de la part des différents partenaires qu'on peut avoir. Donc là aussi, face à l'administration avec un grand A, l'usager se rend vite compte que, en fait, s'il s'est adressé à plusieurs administrations, il va avoir des logiques de traitement qui sont radicalement différentes les unes des autres. Donc là, on a un travail également à effectuer au sein de la DGME, notamment, pour travailler sur le fait de combler les trous ou de combler les écarts entre les différents systèmes informatiques de l'administration de façon à ce qu'ils réagissent tous de la même manière. Donc l'idée, c'est de faire monter en valeur les back-office, finalement, les back-office de traitement, à travers le développement d'une offre de service aux usagers. Tout ça, encore une fois, en développant l'offre de service de façon orientée usager et non en développant l'offre de service en fonction de ce qui nous arrange les uns les autres. Donc voyez un peu la démarche. Je définis le process. Alors, ça a été dit d'ailleurs dans un précédent présentation. Il est très important que les process soient définis, non pas en répliquant les processus papier ou les démarches existantes, mais bien en définissant des process neufs, adaptés aux nouvelles situations que peuvent rencontrer les usagers. Dans ce cadre-là, ça va nous amener justement à travailler, à avoir des constructions conjointes sur les différents canaux d'interaction. Il ne faut pas opposer le fait d'avoir un canal web, le fait d'avoir le mobile, le fait d'avoir le téléphone, etc. etc. Tout ça, c'est des canaux qu'il faut arriver à combiner. Et il faut qu'on construise les process associés aux différentes démarches administratives en comprenant bien, j'irais, la complémentarité des canaux d'interaction que peut avoir l'usager avec l'administration. Alors quoi d'autre à dire là-dessus? Eh bien, effectivement, on a quelque chose à mettre en place. Donc, vous voyez bien, on a cet aspect frontal à réaliser. Et je vais illustrer ça par un exemple. Mais on a également un suivi de l'engagement des autorités administratives à effectuer. Donc, ce suivi des engagements des autorités administratives, ça suppose de mettre en place une forme de gouvernance collégiale dans laquelle tout le monde doit s'inscrire, qui aujourd'hui, incarnée ou illustrée par des choses qu'on appelle dans l'État français les référentiels généraux. Donc les référentiels généraux, c'est des choses qui régissent un petit peu la manière de mettre en place les systèmes d'information. Il faut certainement aller un cran plus loin. Donc il y a déjà un premier cran qui a été atteint sur une forme de gouvernance technique qui tend à avoir des filières SI communes. Mais il faut aller un cran plus loin sur les aspects politiques, juridiques, fonctionnels, de manière à ce que tout le monde réponde au même engagement, par exemple en matière de qualité de service. Pour être clair, il y a un texte, par exemple, qu'on a du mal à appliquer, c'est un texte réglementaire qui date de 2005 qui fixe ce que c'est que l'accusé de réception électronique. Et ce texte, il est très simple. Il dit lorsque quelqu'un s'adresse à l'administration par voie électronique, on lui doit, et quelle que soit l'administration à laquelle il se soit adressé, on lui doit un accusé de réception. Pour illustrer mon propos, ça veut dire que si aujourd'hui, enfin, d'une manière ou d'une autre, enfin, j'extrapole un peu et ne le faites pas, hein, si aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, vous envoyez une déclaration d'impôt à une administration quelconque, celle-ci est censée acheminer votre déclaration d'impôt à la bonne administration traitante, et en plus, elle est censée vous renvoyer un accusé de réception pour vous dire « J'ai bien pris compte de votre demande, je l'adresse à, la bonne, à l'autorité traitante, et celle-ci vous renverra l'accusé de réception définitif. » Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'assez fort dans ce texte qui, pour être honnête, on n'a jamais réussi aujourd'hui à mettre véritablement en œuvre, parce que ça supposerait une telle logique, une telle coordination qu'on n'a pas été capable de l'effectuer. Mais ça, c'est notre idéal, c'est vers ça qu'on doit tendre. Si, alors, ils font un accusé de réception en ligne en disant « Voilà, c'est votre déclaration d'impôt. » Bon, pour finir, je vais vous citer deux, trois exemples de choses un petit peu emblématiques qu'on fait, encore une fois, dans le cadre de la DGME, dont on peut dire que le SI est interstitiel, puisque la DGME n'a pas de métier. Son seul métier, c'est de faire le lien entre les usagers des services publics, enfin, de l'administration et puis les administrations elles-mêmes, et également de faire le lien entre les administrations entre elles. Donc on a un gros projet, par exemple, qui est un projet de fusion des deux portails, enfin de ce qui est maintenant qu'on peut considérer comme deux portails fédérateurs, service public et mon service public. Comment associer, comment faire en sorte qu'il y ait une meilleure cohérence, une meilleure navigabilité, enfin tout un et puis des services qui soient offerts aux autres portails entre service public qui est plutôt la partie information et mon service public qui couvre plutôt la partie espace privé et l'aspect transactionnel pour l'accès aux démarches. Donc il faut qu'on fasse ça. On travaille également sur le lien entre les différentes administrations elles-mêmes et avec les collectivités locales. C'est très important puisque il ne vous a pas échappé que bien souvent lorsqu'on fait une démarche administrative, cette démarche on la fait par rapport à une administration qui peut être centrale, mais par rapport aussi à une administration qui peut être territoriale. Enfin, je prends un exemple très simple. Lorsque vous déménagez, bien souvent, vous êtes obligé de prévenir tout un tas de partenaires, d'administrations ou d'entités ou de partenaires privés. Mais également, vous allez peut-être prévenir la commune dans laquelle vous arrivez que vous avez déménagé pour que effectivement un certain nombre de choses se fassent. Ne serait-ce que l'inscription de vos enfants à l'école ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, donc on peut très bien associer les services liés à l'administration centrale et les services liés à l'administration territoriale. Un simple exemple, le fait de mettre en place une plateforme d'échange entre les autorités administratives, ça a du sens parce que ça permet d'économiser beaucoup. Alors c'est vrai que c'est un investissement, mettre en place une plateforme d'échange, ça suppose de mettre en place une infrastructure très très robuste qui permet d'assurer la continuité ou le passage des flux, qui permet de garantir qu'on va faire passer dessus des centaines de millions de flux. Mais ça, ça permet d'épargner par exemple les envois papier d'accusés de réception. Si vous faites ça sur quelques démarches, vous apercevez que si vous dématérialisez l'ensemble des flux, cette plateforme qui vous aura coûté quelques millions d'euros, voire, mettons 10 ou 20 millions d'euros, elle va vous épargner très rapidement, elle va vous épargner très rapidement 50 millions d'euros à l'échelle de l'administration. Parce que, effectivement, vous démultipliez le nombre de flux dématérialisés par le coût de l'accusé de réception papier avec le timbre, l'accusé de réception plus le timbre. Un autre point, et puis je vais m'arrêter là, ce qui permettra de passer à autre chose, c'est sur un autre exemple sur le même thème, c'est l'état civil. Aujourd'hui, encore une fois, c'est la promesse. Aujourd'hui, lorsque vous devez vous marier, pour certains d'entre vous, ça peut arriver, vous allez au bureau de la mairie et le bureau de la mairie vous dit il me faut un extrait d'acte d'état civil, un acte d'état civil que vous êtes allé vous-même récupérer dans les locaux de votre mairie de naissance, de votre commune de naissance. Donc en fait, c'est vous qui faites le facteur entre les autorités administratives. Tout ça, on veut que ça disparaisse. On veut que ça disparaisse parce que ça, pour le coup, on fait épargner du temps aux usagers de l'administration. Et donc, il y a une plateforme qui se met en place, qui n'est pas le fait de la DGME, mais il y a une plateforme qui se met en place qui va permettre effectivement de dématérialiser tous ces actes d'état civil. Donc ça, effectivement, ça fait partie des actions de l'administration pour à la fois... on ne travaille pas seulement sur la façade, sur le front office, mais également sur toute l'infrastructure d'échange entre les administrations pour fluidifier les échanges et garantir, une forme de qualité de service auprès des usagers. Voilà, j'en finirai là. Si on peut dire qu'il manque quelque chose, et ça passera le relais d'une certaine manière à ce qui va suivre, il manque deux choses finalement. Il manque une vraie gouvernance un peu stratégique, et ça pose la question de l'organisation qui va avec pour régir un petit peu les services qu'on doit offrir, le fait d'offrir une démarche un petit peu orientée service, le fait que chaque administration se doive de finalement offrir des services à un certain nombre d'autres. Et puis il manque également quelque chose qui est lié à l'identité numérique. C'est-à-dire qu'on le voit sur beaucoup de démarches, et c'est vrai à la fois dans le monde privé, mais également dans le monde public, il manque la capacité à posséder une identité numérique qui va permettre notamment de faire des actes, de les signer, de garantir l'authenticité des actes, etc., etc. Donc on avait un petit peu la promesse que ça serait résolu par l'arrivée peut-être de la CNIE. Bon, là, il ne faut pas y compter. Donc il faut trouver les palliatifs à ce problème d'authentification forte et de signature numérique qui va permettre de déclencher tout un tas de choses. Moi, je pense personnellement que, et pas, je ne suis pas le seul, mais que le mobile, c'est un des moyens qui doit être utilisé pour autoriser ce genre de choses. Voilà, j'en conclue là.
Je vous remercie beaucoup.